L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Tromper Hitler. Voilà le but d'une poignée d'hommes dont je voudrais vous raconter aujourd'hui l'action d'éclat. Peut-être la plus audacieuse de la Seconde Guerre mondiale. Ces hommes sont tous des experts du contre-espionnage britannique. Déterminés, patients, astucieux, imaginatifs. Des combattants de l'ombre. L'opération préparée dès 1942 portera le nom assez cocasse de Mincemeat, en français, chair à pâté. L'appellation fait référence à une mixture caractéristique de la gastronomie anglaise, une sorte de confiture de fruits secs et de viande hachée. Dans le secret le plus absolu, ils vont être quelques-uns à imaginer qu'un fantôme, qu'un homme qui n'a jamais existé, puisse duper Hitler et ses services secrets. Parmi eux se trouve un futur romancier,
oui,
qui va plus tard devenir mondialement célèbre. Mais nous n'en sommes pas encore là. Voici par quel concours de circonstances va germer l'idée de la fameuse opération Chair à pâté. Nous sommes le 29 septembre 1939. Il est 9h du matin et c'est l'heure H de mon histoire. Voilà 26 jours que la Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne nazie. Nous sommes au siège du fameux MI5, le service du renseignement intérieur britannique. On ne peut pas dire que ce soit le grand luxe. En fait, on a évacué les détenus d'une vieille prison victorienne et le département de la guerre y a installé ses bureaux. Enfin, provisoirement du moins. Agents et secrétaires sont logés dans les anciennes cellules des malfrats. Assez lugubre comme ambiance. Dès les prémices de la guerre, le MI5 s'est spécialisé dans le contre-espionnage. Un service habile dans la fourniture à l'ennemi de fausses informations. Cela grouille d'agents actifs et discrets. Ce matin-là, quelques-uns d'entre eux viennent de longer la ténébreuse enceinte de l'ex-maison d'arrêt. Ils s'engagent sous l'immense portail gardé par deux tourelles blancs et briques et se hâtent vers une salle de réunion. Ils nous intéressent. Ils vont devenir nos héros. Car c'est ce matin-là, à cette heure précise, que va surgir pour la première fois l'idée de la plus invraisemblable mystification de la guerre. Une supercherie quelque peu macabre, certes. Une idée même un peu folle. Mais si elle réussit, cette future opération épargnera des milliers de vies humaines aux Alliés. Si elle réussit. La réunion de ce 29 septembre 1939 se déroule dans le secret le plus absolu. Comme toutes les réunions qui ont lieu dans la vieille prison reconvertie, ils sont quelques agents, et non des moindres. Deux hommes dominent le petit groupe de travail. Le plus important est un officier du renseignement naval, juge dans le civil, du nom d'Ewen Montagu. Et retenez bien ce nom. Il va être la cheville ouvrière de toute notre histoire. Son intelligence, sa détermination vont faire merveille. Ewen Montagu a 38 ans. Fils de lord devenu riche financier, il est sorti brillamment de l'université de Harvard, puis a gravi tous les échelons. Le voici à la tête de la section des renseignements spéciaux. Avec ce titre, il s'occupe de tous les agents doubles, spécialement ceux impliqués dans les opérations de Duprie maritime. Son esprit très vif est reconnu de tous. On le surnomme déjà l'honorable. À ses côtés, Charles Shurlmondley, un officier de l'ARF, détaché auprès du MI5. Oh, ils se connaissent. Et pour Montagu, ce sera un vrai complice. En face d'eux a pris place le directeur des renseignements navals, un certain Godfrey. Seul son assistant, assis à côté de lui, demeure inconnu et muet. Godfrey le présente sous son nom de code, Georges. On est prudent dans le métier. Puis, il distribue un mémorandum top secret. Comme tout est codé, le document est baptisé « le mémo de la truite ». Ouais, toujours l'humour britannique. En fait, ce code fait allusion à la pêche à la mouche en guise d'hameçon. Vu le déclenchement récent de la guerre, la proie, ce sont bien sûr les Allemands. Quand ces hommes de l'ombre prennent connaissance du mémo, ils n'ont certes pas envie de faire de l'humour. Non, ils ont compris. C'est important. Le document énumère en fait 51 techniques pour tromper l'ennemi en temps de guerre. Il divulgue même une idée que son auteur a puisée dans un roman policier. Abandonné en mer, à proximité de côtes ennemies, un cadavre en uniforme d'aviateur, un faux pilote, porteur de documents hautement confidentiels, de fausses nouvelles, bien évidemment. Quand les agents se concertent entre eux, ils estiment ces techniques fort efficaces. Pour d'autres, assez farfelues, dont la 28e, celle dont le rapport précise, je cite, « qu'il n'y a aucune difficulté à obtenir des cadavres à l'hôpital Naval. Mais bien sûr, il faudrait que ce soit un cadavre frais. » Oui, plus facile à dire qu'à faire. C'est alors qu'intervient un jeune assistant. En fait, c'est lui l'auteur des 51 mystifications possibles pour tromper l'ennemi. Âgé d'une trentaine d'années, esprit subtil et ingénieux, beau gosse, amateur de femmes, il a, affirme son supérieur, des idées fantastiques, mais parfois fantasques. C'est-à-dire impossibles à réaliser. Toutefois, il peut parfois amener une solution éclatante de simplicité. Les hommes de la Réunion lui font remarquer qu'on n'obtient pas un cadavre ainsi, sur simple demande. L'auteur l'admet. Mais il défend sa 28e proposition. L'avantage, c'est qu'un cadavre, s'il est fait prisonnier, c'est pas comme avec un agent. Il ne peut être ni torturé, ni retourné, ni même supprimé. Un cadavre ne parlera jamais. Le jeune assistant semble avoir de l'imagination à revendre. Après cette réunion de septembre 1939, le fameux « mémo de la truite » restera dans les archives jusqu'en 1942, classé « top secret ». À cette date, le conflit mondial a amorcé un nouveau tournant. Fin 1941, les États-Unis sont entrés dans le conflit. Les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Mais pour reconquérir et libérer l'Europe, il leur faut traverser la Méditerranée. Dès lors, ils ont besoin d'un tremplin. Et idéal, c'est la Sicile. Le problème, c'est que les Allemands ont la même idée. Ils y renforcent leur défense, multiplient troupes et panzers, installent une base aérienne, couvrent l'île de champs de mines et inondent la Sicile d'espions chevronnés. Bref, c'est de pied ferme qu'ils attendent les Alliés en Sicile. Mais à l'est, Staline s'impatiente. Attaqué par les Allemands, il presse les Alliés d'ouvrir un deuxième front pour soulager ses troupes. L'état-major allié est bien conscient qu'il est nécessaire de tromper l'ennemi. Mais comment duper Hitler? Comment envoyer les services secrets allemands sur une fausse piste? Comment leur faire croire qu'ils vont débarquer non en Sicile, mais ailleurs, en Grèce par exemple? Il faut donc monter une intoxication d'envergure. C'est alors qu'Ewen Montagu et son ami Charles Cholmondeley vont entrer en action et qu'on va ressortir la fameuse idée farfelue et macabre du jeune assistant, l'auteur du « Mémo de la truite ». Qui sont ces hommes que réunit Ewen Montagu? Ils vont devenir les acteurs majeurs de notre histoire. Tous des as du faux, de l'usage, des coups tordus, de la désinformation et de la ruse en temps de guerre. Ils forment une équipe solide et soudée. Il y a là des officiers de carrière à l'expérience considérable, démobilisés, officiers ou civils. Tous de formations diverses et très éclectiques. Ils sont capables d'examiner à fond n'importe quel type d'information, ce qui va garantir un taux d'efficacité maximum. Il demande à ses hommes de l'ombre d'imaginer un plan périlleux mais sans trop de risques de fuite. Quelle ruse mettre en place afin d'obliger les Allemands à dégarnir la Sicile? Parmi eux, il y a bien sûr le mystérieux Georges. Inconnu, il ne le restera plus très longtemps, car son idée revient sur le tapis. Souvenez-vous l'histoire farfelue d'un cadavre, d'un faux officier, parachuté en mer avec de faux documents top secrets. Cette idée qu'il a piquée dans une de ses lectures fait son chemin. D'autant que l'équipe de Montagu n'a encore rien trouvé de vraiment efficace. Georges monte un vrai scénario. On dirait un film, ou plutôt un roman. On dirait un vrai romancier. Mais c'est ce qu'il va devenir plus tard. Car cet universitaire, fils de député, ce Georges, qui travaille à la division navale intelligence, n'est autre que celui qui va devenir mondialement célèbre, ce Ian Fleming, futur créateur de 007. 10 ans plus tard, il va sortir son premier James Bond, Casino Royale. Et il va se servir de son expérience dans l'unité de renseignement pour créer l'environnement de son héros. Il reprendra même le nom de la bien réelle, Opération GoldenEye, qu'il a planifiée pour assurer le contrôle militaire britannique sur Gibraltar. L'équipe maintenant planche donc sur l'idée de Ian Fleming. C'est à Montagu et à Scholl Mondeley de l'appliquer et de l'améliorer. C'est eux désormais qui vont diriger toute l'équipe. Et c'est Montagu qui va baptiser l'opération « Chair à pâté ». En espérant que dans ce pâté, les Allemands vont venir mordre à pleines dents. Bon, d'abord, choisir le point de chute du cadavre, l'Espagne. Pourquoi l'Espagne ? Parce qu'elle est restée neutre, donc non occupée par les Allemands. Mais le gouvernement de Franco entretient d'excellentes relations visibles ou secrètes avec le Reich. Sensibilité politique très proche donc. Ensuite, parce qu'il vaut mieux que ce soit un médecin espagnol qui fasse l'autopsie du noyé plutôt que des Allemands suspicieux. Mais comme l'Espagne est truffée d'agents allemands, on est presque sûr qu'ils seront avertis par les autorités espagnoles. Montagu choisit Huelva, un port sur l'Atlantique, au sud de Séville. Les nazis y ont un agent très actif, un certain Klaus, qui entretient d'excellentes relations avec les autorités espagnoles. Le MI5 se doute que c'est à lui qu'on remettra tous les papiers et objets suspects trouvés sur le cadavre. Cet espion allemand, qui se fait passer pour un ouvrier agricole, en transmettra illico des copies à Berlin. Ils en sont presque certains. Enfin, du moins, ils l'espèrent. Donc va pour l'Espagne, va pour Huelva. Ouais. Oui, mais quelle sorte de cadavre, hein ? Et où le trouver ? Là est l'aspect le plus épineux de la préparation. Le cadavre. Quel genre de cadavre va convenir ? Montagu pense que c'est à un pathologiste de renom qu'il faut se référer. Il questionne donc le plus éminent à sa connaissance. Éminent et surtout muet comme une tombe, si l'on peut dire. Question. Qu'est-ce qu'un médecin légiste s'attend à trouver ou pas dans le corps d'un homme rejeté par les flots après un accident en mer ? De quoi meurt-on quand on est victime d'un tel accident ? Réponse. Le froid, une blessure lors du choc ou une asphyxie par submersion. Oui, mais quel critère pour choisir notre cadavre ? Si le cadavre a soi-disant flotté avec une Mae West, le gilet de sauvetage des aviateurs, au moment où il est découvert, il ressemblera à un homme qui s'est noyé ou même qui est mort de cause naturelle. Si l'autopsie décèle qu'il est mort depuis plusieurs jours, c'est normal, puisqu'il a pu dériver en mer pendant un certain temps. Dernière question, où trouver un bon cadavre ? Réponse, je vais vous aiguiller vers un coroner, c'est-à-dire un fonctionnaire indépendant chargé d'enquêter au nom de la couronne sur une mort inexpliquée. Commence alors une longue série de recherches, mais dans une discrétion la plus totale. Car des gars qui cherchent à se procurer un cadavre, ça passe pour suspect. Ils en trouvent des tonnes, mais pas ce qu'ils cherchent. Ils ne vont quand même pas aller en déterrer. Quand on leur en signale un problème surgit toujours. Les parents n'acceptent pas, ou ils sont trop bavards, ou la cause de la mort empêche tout réemploi. C'est alors qu'à la fin janvier 1943, le coroner appelle Montagu, tout excité. Un corps vient d'être retrouvé dans une remise du quartier de King Cross, à Londres. Un Gallois qui a fui pour se réfugier dans la capitale. Un vagabond de 34 ans. De mieux en mieux. Il a été emporté par une pneumonie suite à une ingestion par erreur de pain empoisonné à la morora. Absolument parfait. De plus, il paraît sans famille. Du moins, personne ne réclame son corps. C'est splendide. Montagu n'en croit pas ses oreilles. Le Gallois se nomme Glinder Michael. Un peu bohème et très alcoolisé. Ce qui est rassurant, c'est que du fait de sa pneumonie, explique le coroner, une quantité importante de liquide a inondé ses poumons, ce qui est compatible avec une immersion. Bien, maintenant qu'ils ont leur cadavre, il faut le conserver intact jusqu'au feu vert pour la mission. On va se procurer un cylindre en tôle d'acier de 22. Mesure 2 mètres de long et 60 cm de diamètre, fermé par un couvercle à joint lisse. On y introduit le corps réfrigéré, on l'entoure du maximum de neige carbonique, on évacue le surplus d'oxygène qui pourrait accélérer la décomposition et on ferme. Voilà le cadavre du Gallois seul avec lui-même. Les hommes du renseignement doivent maintenant amorcer la manœuvre la plus délicate, celle qui n'autorise aucune erreur, aucune approximation, aucun élément négligé qui pourrait mettre la puce à l'oreille à l'ennemi. Ce qui va le plus vite, c'est le nom et le statut. William Bill Martin, des Royal Marines, fusilier marin au grade de capitaine, faisant fonction de commandant, né à Cardiff, au Pays de Galles, en 1907, assigné au quartier général des opérations combattantes. Son grade justifie qu'il transporte des documents officiels. Mais comme il est proche de l'état-major, il peut transporter aussi des lettres plus familières entre hauts gradés. Et ça, c'est l'essentiel. Les deux hommes à la manœuvre vont ensuite devoir agir comme le font les scénaristes de films. Rendre plausible, vivant, authentique leur personnage. Lui inventer une existence, un quotidien, une vie amoureuse, des tics, voire des défauts. L'opération Cher à pâté prend un nouveau virage. La guerre aussi. En 1943, sur le front de l'Est, le général von Paulus est pris à revers. Il doit capituler à Stalingrad. Cette défaite met fin à l'invincibilité de l'armée du Reich. Elle est également considérée comme le tournant de la guerre, voire le début de la fin. Cette nouvelle va changer l'état d'esprit de l'équipe de Montagu et la motiver doublement dans sa volonté de réussir. Le cadavre a maintenant un grade et une identité, mais pas de carte du même nom. Et là, ça se complique. Oh, pas de problème pour le document lui-même, non. Aucun non plus pour le remplir avec tous les renseignements fictifs. Pour le numéro de la carte d'identité, facile. Montagu écrit le sien. Mais le problème est ailleurs. Ce formulaire à remplir est tout neuf. Alors qu'après un certain usage, il doit paraître défraîchi. Tous les membres de l'équipe sont alors requis pour passer leur temps au bureau à frotter le document sur leurs jambes. Par le procédé du frottement sur les pantalons ou les jupes des secrétaires, le document finit par obtenir un âge raisonnable. Le problème plus compliqué arrive, la photographie sur la carte d'identité. Il tente de photographier le visage du gars conservé dans la neige carbonique. Fiasco complet. Impossible de tirer le portrait d'un mort pour lui donner l'air d'un vivant. Enfin, du moins à l'époque. Alors que faire? Des jours entiers, il sillonne les rues de Londres, dévisageant des centaines de passants afin de découvrir un sosie. Mais néant. Montagu tente de photographier un jeune officier de marine de la division navale. Pas fameux le résultat. Mais le hasard est avec lui. Lors d'une réunion au sujet d'une toute autre affaire, il s'assied en face de quelqu'un qui, au miracle, aurait pu être le frère jumeau du Gallois. Ouf, obstacle surmonté. Pour compléter la vraie personnalité de leur Martin, Montagu et son complice, Cholmondeley, prennent l'habitude de parler de lui familièrement. De rire de ses défauts, de l'imaginer comme un vieux copain d'enfance, jour après jour. Bill Martin devient ainsi tout à fait réel. Selon eux, il aimait prendre du bon temps, sortait dans les nightclubs. Il devait donc avoir dans sa poche une invitation pour une boîte de nuit. Comme il l'imagine assez négligent, il glisse dans une autre poche de son uniforme un rappel de sa banque pour un découvert de 79 livres. Ingénieux, non? Mais un peu de romantisme, s'il vous plaît. Alors pour faire vrai, il faudrait donner à Bill Martin une petite amie, non? Ils vont donc décider de lui confier des documents plus intimes. Oui, mais des lettres d'amour. Il faut les écrire. Ils imaginent que juste avant son départ en mission, il a rencontré une jeune fille avec qui il souhaite se fiancer. Ils vont la baptiser Pam. Et il pense à tout, même à glisser la facture pour une bague de fiançailles dans ses effets personnels. Par contre, pour les lettres d'amour que lui a envoyées la fictive Pam, c'est un autre problème. Aucun des hommes ne se sent à la hauteur. Pas assez romantique. Il faut une collaboration féminine. On demande alors au secrétaire du bureau de s'y employer. Et elles vont faire merveille. De la guimauve, de la romance, dans un style qui convient à une fille de 20 ans. Rien n'est pire, mon chéri, que d'accompagner à la gare celui qu'on aime. Le train vous laisse en partant un vide affreux. Quelle merveilleuse journée nous avons passée ensemble. Bill, mon amour, préviens-moi dès que tu pourras arranger quelque chose. Ta lettre est arrivée ce matin, juste au moment où je me dépêchais de partir, terriblement en retard comme d'habitude. Tu écris d'une manière adorable. Mon Bill chéri, je suis si heureuse de ma bague. Tu as fait une folie. Tu sais combien j'aime les diamants. Je suis toujours en train de les regarder, avec tout l'amour et un baiser de Pam. On dirait du vécu, hein ? Enfin bref, presque du vécu. Même Pam semble exister pour l'équipe. Une secrétaire du MI5, une certaine Jean, pose pour une photo souriante et le cliché fera partie des documents intimes confiés au cadavre. Il faut imaginer ces hommes en vase clos, confinés dans cette mission délicate et essentielle, ne pensant qu'à ça et au dehors. La guerre qui continue, qui s'éternise. Un peu de chaleur humaine. Il reste des hommes et il y a aussi des secrétaires et des auxiliaires qui aimeraient danser romantiquement avec eux sur Moonlight Serenade du major Glenn Miller. On a parlé d'une liaison qu'aurait eue Ewen Montagu avec une jeune secrétaire. Alors, est-il tombé amoureux de la jolie auxiliaire à qui on a fait jouer le rôle de la fameuse Pam ? C'est possible. En effet, il glisse cette confidence ambiguë dans son livre de souvenirs. La vraie Pam avait corsé la plaisanterie en me donnant un exemplaire agrandi de la photographie avec la dédicace « Jusqu'à ce que la mort nous sépare, ta Pam affectionnée ». À cette époque, j'habitais chez ma mère Gladys et, pour voir sa réaction, je posais la photographie sur ma table de toilette. Environ un an plus tard, quand ma femme revint d'Amérique, où elle avait rempli une mission pour nos services, je lui montrai la photographie. Je fus stupéfait de l'entendre dire « Ah, voilà pourquoi ta mère s'est mise à m'écrire dans ses lettres que je devais revenir aussitôt. » Pirouette équivoque. Non, vérité humaine. Quand elle revient à Londres, l'épouse de Montagu sera convaincue que son époux avait une liaison avec une des filles qui travaillait dans son équipe. Loin de ces choses de la vie, cette équipe a un autre souci. Il faut créer ce qu'on appelle en espionnage une couverture. C'est là qu'interviennent des hauts gradés de l'armée. Leur tâche sera de rédiger ce qu'on nommera le document capital. Il est clair que ce document doit émaner des hautes sphères de l'armée. Pour tromper les Allemands, c'est plus que nécessaire. Pour leur faire croire que les Alliés vont débarquer ailleurs qu'en Sicile, il faut les mettre devant un document crédible. Des pièces justificatives qui ont déjà circulé parmi des officiers supérieurs au courant des plans prévus. Une indiscrétion d'un simple brigadier ou d'un commandant ne suffira pas. Donc, il est indispensable d'avoir un document écrit et signé par un homme qui a deux avantages. 1. être dans le secret des dieux, et 2, porter un nom connu des Allemands. Mais Montagu est rusé, il a des idées précises sur le style. Surtout pas un ton gardé, solennel, militaire, non. Tout le monde le sait, y compris les Allemands, qu'un officier en mission ne peut transporter sur lui des ordres top secrets. Surtout, pas des plans d'attaque. Par contre, des lettres personnelles du style « vieux copains militaires entre eux », du style « dis donc mon vieux », avec un humour parfois de corps de garde, cela serait parfait. Et bien entendu, les pièces confiées aux cadavres devront clairement révéler une attaque des Alliés en Sardaigne ou sur la Grèce. Cette annonce d'une attaque fictive sera suggérée dans une lettre personnelle du lieutenant-général Nye, vice-chef de l'état-major, à destination du général Alexander, commandant britannique en Afrique du Nord. Montagu fait encore plus fort. Pour confirmer les qualifications militaires du major Martin, il inclut un autre courrier de Lord Mountbatten, chef des opérations combinées, à l'amiral Cunningham, commandant en chef en Méditerranée. Bref, rien que du beau monde, avec décoration et étoiles. Avec ces ultimes précautions, vont-ils réussir à tromper et à intoxiquer l'espionnage allemand? Ils l'espèrent. Ils font tout pour réussir. Mais ne crions pas trop vite victoire. En face, les services de renseignement nazis ne sont pas des naïfs incompétents ou des vaincus en puissance. Car un détail anodin mais suspect peut tout anéantir. Montagu et son équipe ne cessent d'améliorer leur stratagème. Ils constatent que ce qui manque au cadavre de Martin, c'est ce que tout homme emmène avec lui. Des objets sans importance, des objets personnels auxquels il tient ou dont il a l'usage. Donc les hommes de l'ombre essaient d'imaginer ces détails qui font la vie d'un individu. Et ils vont les glisser dans les effets du faux officier. La liste se trouve toujours aux archives nationales britanniques. Elle ressemble à un inventaire à la Prévert. Une croix d'argent sur chaîne autour du cou, une montre au poignet, une photographie de sa fiancée dans son portefeuille, un carnet de timbres, deux lettres de Pam, la fiancée, une plaque de Saint-Christophe, une invitation au club du cabaret, une carte d'identité de l'amirauté, des billets de banque, des pièces de monnaie, une lettre de son père, une note non acquittée du club naval et militaire, deux factures, dont celle de la bague de fiançailles, deux tickets d'autobus, deux entrées de théâtre, une boîte d'allumettes, un paquet de cigarettes, un trousseau de clés, un bout de crayon, une lettre de ses avoués. Voilà, le commandant Martin existe réellement. Car il faut penser à tout. Par exemple, il faut que l'on retrouve le corps, donc qu'il s'échoue sur la plage de Huelva. Il convient donc de faire appel à un hydrographe de la marine pour connaître la meilleure météo et les heures de marée sur cette côte andalouse. Ah, les courants ne sont pas favorables, répond-il, mais le vent de sud-ouest qui domine en avril pousse vers la terre. Point positif, leur cadavre flottera bien vers la côte. Point essentiel, il faut choisir avril pour le largage. L'équipe londonienne va maintenant passer à l'exécution numéro 3 du plan, la troisième phase de l'opération, chair à pâté. Amener à bon port le cylindre contenant Martin en uniforme avec tous les objets répartis sur lui et dans une mallette dûment fermée, les fameux deux documents capitaux émis par les hauts gradés militaires. Le 16 avril 1943, allongé dans son lit et fumant le cigare, le premier ministre Winston Churchill approuve le plan secret pour l'opération Mincemeat. Il en informe directement le général Eisenhower et donne le feu vert à Montagu dans une missive qui porte la mention « Most Secret ». Feu vert donc. On dégèle les pieds du pauvre Gallois, alias Bill Martin, à l'aide d'un radiateur. Il faut bien lui enfiler ses bottes de militaire. Puis avec son complice, Cholmondeley, plus un chauffeur, Montagu grimpe dans une camionnette Ford après y avoir placé Martin dans son cylindre. Ils sortent de Londres en passant par hasard devant un cinéma qui affiche un film d'espionnage. En voyant les spectateurs qui font la file, les hommes du MI5 ont envie de leur crier « Laissez donc le film, nous avons une bien meilleure histoire à vous raconter. » Dans la camionnette, ils en rigolent. Faut bien détendre l'atmosphère. Car l'enjeu est de taille. Pas question d'avoir un accident. Pas question de laisser la camionnette sans surveillance. Imaginez qu'on leur vole ce bon Martine. Le voleur fera une drôle de tête. Nouvelle rigolade. La tension est perceptible. Pendant tout le long voyage, ils ne peuvent utiliser que des phares voilés. Le bruit des avions de combat au-dessus de leur tête ajoute un souci de plus. Il y a des détournements suite aux dégâts provoqués par les bombardements. Ils arrivent à destination de bonne heure dans la matinée du 18 avril. Dans le port écossais convenu, ils montent avec leur colis à bord d'un navire ravitailleur. Il leur faut des hommes costauds pour débarquer le cylindre et le hisser dans un sous-marin. On arrime le caisson à un des ballasts et Montagu tient un briefing avec le commandant du navire. Il devra immerger le corps en présence du moins d'hommes possible. Rien que des officiers, sûrs, évidemment. Éviter les fuites et les indiscrétions. Immerger un corps inconnu au large des côtes de Huelva ferait jaser le soldat le plus discret. Il faut ici aussi une couverture. Sur le cylindre est apposée une note, instrument d'optique. Et ce qu'il faut dire aux officiers, c'est qu'il s'agit d'une bouée météorologique secrète. Arrive le moment le plus émouvant pour Montagu. C'est ici qu'il quitte son commandant Martine. Cet homme qui n'a jamais existé, mais dont il espère beaucoup. Moment solennel, petit pincement au cœur. Et si tous ces mois de travail avaient été vécus pour rien? Toujours cette hantise. Le plan va-t-il réussir? Ewen Montagu et Bill Martin se séparent à jamais. Il n'y a plus qu'à attendre. Comme il le notera dans ses carnets, vint alors la période d'anxiété. Le 19 avril 1943, à 18h, le sous-marin Seraf prend la direction de l'Espagne. Destination ? L'incertitude. Enjeu ? La vie de milliers d'hommes. Et le sous-marin plonge, sans incident, pendant 10 jours. 30 avril. Il arrive sur la zone de largage. Il fait surface à 1,5 km de la côte de Huelva. Vent variable de sud-ouest, sud-est, c'est parfait. Ciel couvert, avec nuages très bas, c'est plus discret. Le périscope révèle une cinquantaine de petits bateaux de pêche dans la baie. Mais la brume va permettre un largage plus que discret. 4h15, on ouvre le cylindre contenant Bill Martin. La décomposition est plus avancée que prévu. Le corps est sorti, on y accroche la sacoche contenant les faux documents. Sur le pont, le commandant est seul avec quelques officiers dont il peut répondre. Il est le seul à être dans le secret. Secret qu'il révèle aux 5 officiers présents. Un seul dira « Est-ce que ça ne risque pas de porter malheur de transporter des cadavres ?» Tête nue, les officiers s'inclinent. Ils rassemblent leurs souvenirs pour murmurer la prière des morts et réciter un psaume. Le commandant a pris des risques en s'approchant au maximum de la côte. On pousse le cadavre dans l'eau, la marée l'emporte vers la plage. Le commandant Martine, cette fois, entre en guerre. Tous les hommes qui ont œuvré à l'opération n'ont plus qu'à attendre, là-bas, à Londres, pour savoir si Martine va s'acquitter au mieux de sa mission. Ce même jour, à 7h30 du matin, le port et la ville de Huelva s'éveillent. Comme chaque jour, les pêcheurs de sardines se sont levés tôt. Un des leurs va, malgré lui, entrer dans l'histoire. Il s'appelle Antonio Tei Maria. Dans ses filets, il vient de ramener le corps d'un noyé, emberlificoté dans son parachute. Bah, que faire? C'est un peu compliqué pour un pêcheur qui ne sait ni lire ni écrire. Il le hisse dans une chaloupe qui le ramène au port. Après, se dit-il, on verra bien. Après, que se passe-t-il? On autopsie le cadavre de Martine. Diagnostic, l'individu est tombé à la mer encore vivant. Aucune contusion. Asphyxie par submersion depuis 5 ou 6 jours. Le corps est ensuite remis au vice-consul britannique à Huelva, lequel prévient Londres. Le lendemain, à midi, le brave Gallois est inhumé avec les honneurs militaires dans le cimetière de Huelva. Dans le télégramme du vice-consul, aucune mention de la sacoche ni des documents trompeurs. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Cela veut dire qu'ils sont ailleurs, dans des mains intéressées. Ces mains sont celles des Espagnols d'abord, qui analysent ce que contiennent les documents. Vu leur importance, ils les transmettent au service de renseignement allemand. Dès qu'ils ouvrent l'attaché-caisse, les hommes du Reich authentifient et photographient les documents. L'information remonte en haut lieu très vite, et très vite à Berlin. Churchill et Roosevelt vont aussi rapidement recevoir la confirmation de la découverte à Huelva du cadavre du commandant Martin. Churchill transmet la bonne nouvelle à l'équipe de Montagu. Une seule phrase teintée d'humour britannique. Mincemeat swallowed. En clair, chair à pâté avalée. Comme le veut l'usage, après de multiples examens secrets et minutieux par les Espagnols, puis les Allemands, les documents contenus dans la sacoche sont renvoyés à Londres par la valise diplomatique. Imaginez l'émotion de l'équipe. Elle les soumet sur le champ à des analyses scientifiques poussées. Résultat, elle a maintenant la preuve que les enveloppes ont été décachetées, qu'on a analysé leur contenu, puis qu'on les a recachetées. Montagu respire. C'est un cri de joie dans le bureau de l'équipe. On monte sur les tables, on se congratule, on est ému. Le 10 juillet suivant, jour de l'invasion de la Sicile, les Alliés ne rencontrent que peu de résistance. Ils avancent rapidement sur un terrain dégagé. L'ennemi a interrompu ses efforts de défense. C'est évident. Les lettres de « cher à pâté » ont bien joué leur rôle. À Berlin, le Führer ne se doute pas un instant de la supercherie. Il est convaincu de l'authenticité des faux documents. 15 jours après le débarquement en Sicile, il croira encore qu'il s'agit là d'une manœuvre de diversion. L'invasion de la Sicile aura des conséquences désastreuses pour l'axe Berlin-Rome. Palerme tombe à la mi-juillet. C'est le déclic pour un coup d'État contre Benito Mussolini, qui est arrêté et qui perd le pouvoir le 27 juillet. Loin de ce début de la fin, à Londres, l'officier naval de renseignement, Ewen Montagu, recevra la médaille bien méritée de l'ordre de l'Empire britannique. Mais pas Bill Martin, l'homme qui n'a jamais existé. Dans son livre de souvenirs, il lui adressera le plus émouvant éloge posthume que voici. Dans le cimetière de la ville espagnole de Huelva, repose un sujet britannique. Quand il mourut seul, dans le brouillard humide de l'Angleterre, il était loin de penser qu'il dormirait pour toujours sous le ciel ensoleillé de l'Espagne, après des funérailles célébrées avec tous les honneurs militaires, ni que, après sa mort, il rendrait aux alliés des services qui épargneraient des centaines de vies anglaises et américaine. De son vivant, il avait fait peu pour son pays, mais mort, il a fait plus que beaucoup. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Michel Carli.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.